Bulles et reportages, principe actif.
Bulles et reportages.
Bon, bah 10h11 devant la préfecture et près du conseil départemental d'Évreux. On est aujourd'hui mardi 7 novembre et je suis en compagnie du parent représentant des représentants de parents du collège Pablo Neruda. Bonjour à vous.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe en fait depuis ce matin 8h30, c'est ça?
Donc en fait, depuis ce matin 8h30, on a mobilisé les parents, on a donné un rendez-vous devant le collège Pablo pour les parents qui n'étaient pas véhiculés pour faire un covoiturage, pour descendre vers la préfecture et le conseil d'administration. Parce qu'à partir de 9h30 se tenait et se tient encore à l'heure actuelle le conseil départemental de l'éducation nationale. Donc c'est une journée phare, une journée importante pour nous parce que c'est cette journée dans laquelle va être consultée une avant-dernière fois pour l'avenir du collège, des collèges, de nos enfants et aussi du quartier de la Madeleine.
Ouais, parce que là, si je ne me trompe, bon là on parle du collège Pablo Neruda, mais le collège Pierre Mendès France de Val-d'Aureuil est aussi dans la même situation, d'un peu un inconnu, en tout cas pour fermer.
Et... Tout à fait, le collège Pierre Mendès France de Val-d'Aureuil est dans la même situation que le collège Pablo Neruda d'Évreux. La seule différence, si on peut prendre ça avec un petit sourire, c'est que la municipalité de Val-d'Aureuil est avec les enseignants, les parents de Pierre Mendès France, contrairement à, malheureusement, la ville d'Évreux. Je remercie M. Lefranc de nous avoir rencontrés lundi de la semaine dernière. Mais M. Lefranc tient en tête, il veut absolument fermer ce collège. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il reste sur des on-dit, des a priori qui étaient malheureusement dans les années 90, mais qui ne sont plus à l'heure actuelle, quoi.
Là, on voit, il y a donc des manifestements des parents qui se sont saisis d'instruments pour faire un petit peu de bruit, hein, de bazar, pour se faire remarquer de manière saine durant cette réunion. Des parents sont présents, des profs aussi ce matin.
Tout à fait, il y a des parents, il y a des profs, il y a des élèves, des anciens élèves aussi, parce que le collège Pablo, c'est une institution, c'est une, un repère par rapport à ce quartier qui est la Madeleine, et contrairement à ce que les politiques peuvent dire, les enfants s'y plaisaient, et s'y plairont, j'espère encore, parce que quand on voit les anciens élèves, le contact qu'ils ont encore avec les profs, c'est absolument génial, quoi.
Alors comment ça se passe? Parce qu'on a vu passer sur Facebook, le quartier est aujourd'hui, entre guillemets, le terme utilisé était mort. C'est-à-dire qu'il y a d'autres écoles qui jouent le jeu, d'autres institutions scolaires qui sont aujourd'hui à avoir envie de soutenir le collège.
Oui, exactement. Alors aujourd'hui, le quartier de la Madeleine est un quartier dit mort. Parce que donc, le collège Pablo Neruda est fermé, les écoles primaires de la Madeleine sont fermées parce qu'elles dépendent aussi par le REPLUS du collège. Et dans Évreux, il y a le collège Jean Jaurès et j'ai cru entendre dire que le collège Paul Bert aussi était fermé en soutien à Pablo et aussi à Pierre Mendès France, mais surtout en soutien à Pablo.
Ouais, c'est un vrai soutien supplémentaire, un vrai geste fort de la part d'autres établissements scolaires qui sont dans l'absolu moins impactés directement, mais qui le sont indirectement.
Tout à fait, ils le sont indirectement parce que faut savoir c'est que tout le remaniement de la carte scolaire touche tous les collèges d'Évreux, sauf un, Jean Rostand, qui pourtant est dans un état pire que Pablo. Mais bon, on ne touche pas à Jean Rostand, on nous dit qu'on va le reconstruire dans 3 ou 4 ans. Est-ce vrai, est-ce pas vrai? Si ça reste des paroles politiciennes, hein, on sait comment elles sont. Donc voilà, c'est un soutien fort. Et je remercie tous les parents, les profs, de tout ce qu'on a pu faire depuis la rentrée, tout ce qu'on est en train de faire. Et j'espère tout ce qu'on pourra faire par la suite, parce qu'on est là aujourd'hui. Mais le combat ne se termine pas.
J'allais y venir parce qu'en fait, on s'était vu avant les vacances scolaires. J'avais eu des cris du cœur de la part de parents, de mamans en l'occurrence, qui étaient très craintives quant à l'avenir de leurs enfants. Hier encore, le collège était fermé, était bloqué. C'était déjà le cas hier lundi. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas prêt de s'arrêter ou au contraire, on attend aujourd'hui le déroulé de la journée, les informations qui vont sortir?
Alors non, par rapport à ce qu'il en est. Donc, on a voulu maintenir la pression hier aussi par rapport à ce qu'on avait débuté avant les vacances. Parce que même pendant les vacances, hein, on n'a pas lâché, on a rencontré des personnels politiques, on a rencontré Monsieur le maire, Guy Lefranc, Madame le Seigneur et bien d'autres. Et les parents d'élèves des organisations syndicales ont rencontré Monsieur le préfet et tout ça. Mais dès demain, les cours reprennent normalement. Avec une petite remise à niveau parce que bon, faut le temps, même si les profs ont mis il y a du bruit. Même si les profs ont mis sur le NT les devoirs, les leçons et tout ça.
Le NT c'est via internet, hein, c'est ça.
C'est via internet, ouais. C'est sous surveillance du conseil départemental et l'inspection académique. Comme ça ils ont pu voir que même si on faisait pressing, on ne lâchait pas nos enfants, parce qu'on pense aussi à nos enfants, nous. On pense à leur avenir et donc dès demain matin, les cours reprennent normalement. Et le cross du collège qui devait avoir lieu avec les primaires le vendredi d'avant les vacances aura lieu lundi de la semaine prochaine.
D'accord. De ce qu'on entend, a priori, aujourd'hui, on devrait en savoir plus. Il est prévu une conférence de presse, c'est ça, en début d'après-midi peut-être?
D'après ce qu'on aurait pu entendre dans le cortège, oui, il semblerait que M. Lehongre, président du conseil départemental, réunirait la presse à 14h pour faire une conférence de presse. Le sujet de cette conférence est pour l'instant inconnu. Donc on verra bien ce qu'il va se dire. On verra aussi par rapport à la sortie de la réunion, ce qu'il s'est dit et tout ça. Mais bon.
En tout cas, il n'y a pas de délégation qui est présente à cette réunion. Il n'y a personne de votre collectif qui est sollicité sur ce temps d'échange et de discussion.
Non, parce que nous, en fait, à Pavlo, les parents d'élèves, c'est une liste citoyenne. Donc on n'est pas invité à ce genre de réunion. Quoi.
D'accord. Par contre, on voit des drapeaux fleurir de syndicats, j'imagine, enseignants qui sont présents.
De syndicats enseignants, de syndicats de parents d'élèves aussi. Et donc voilà, c'est très bien parce qu'on se sent soutenu. C'est une force de nous tous ensemble. Quoi. Moi, je dis, il ne faut pas lâcher. On a bloqué une semaine, on a bloqué hier, aujourd'hui c'est les profs qui sont en grève, après la suite on verra, il y a d'autres actions à mener, mais ces actions ne peuvent pas se décider comme ça du jour au lendemain à la légère. Peut-être que monsieur le maire réagirait plus, peut-être que le conseil départemental réagirait plus s'il voyait que, je sais pas, un blocage de route, c'est à la mode en ce moment, donc... Peut-être, hein, quoi. Donc, je pense qu'il faut maintenant, faut taper le poing sur la table, il faut y aller fort, tout en restant gentil et poli. Il ne faut absolument pas qu'il y ait un débordement parce qu'il s'en servirait à 100%. Mais moi, je dis que, bloquer les entrées d'Evreux, pourquoi pas, quoi. Parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, ça n'impacte pas que Evreux. Ça impacte aussi les communes voisines, tout en sachant que par exemple les élèves qui habitent à Cogé ou Claville, au lieu d'aller à Paulbert, ils iront au Neubourg.
Ouais, d'accord, donc ça a un impact bien plus général que intramuros Évreux. Sébastien, merci d'avoir répondu à ces quelques questions. On rappelle, hein, vous êtes Sébastien, j'ai oublié votre nom.
L'Endormi,
merci beaucoup. Mais pourtant bien réveillé, bien éveillé ce matin.
Un jeu de mots facile.
Facile, tout à fait. Et voilà, vous êtes parent représentant des parents représentants du collège Pablo Neruda à la Madeleine. Sûr. Merci Sébastien.
Merci.
Toujours en direct devant la préfecture d'Evreux et le conseil départemental, en compagnie d'un professeur de Pablo Neruda. Bonjour à vous.
Bonjour.
Monsieur Benoît, c'est cela?
C'est bien ça, professeur de PS au collège Pablo Neruda.
Ouais, alors votre visage nous est un petit peu familier pour celles et ceux qui suivent un peu malheureusement l'histoire du collège Pablo Neruda, puisqu'en fait vous êtes ce professeur qui a un petit peu fait le buzz avec une vidéo qui mettait en scène en fait tout simplement ce que serait le trajet potentiellement d'un élève l'an prochain si ne changeait pas la situation du collège avec l'idée de la fermeture. On parle d'idée parce qu'elle n'est pas encore entérinée. En tout cas, les parents y croient encore, les professeurs y croient encore. Monsieur Monod, d'où vous est venue cette idée et pourquoi l'avoir traduit ainsi?
Alors, c'est simple, ça fait longtemps que je crois au pouvoir de l'image et notamment aux nouvelles technologies. Et Facebook est un super moyen et qui est donc abordable pour tout le monde peut voir. Et je voulais absolument montrer que les politiciens ont des bonnes idées, ils ont des grandes phrases, ils font des grandes choses. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que les enfants vont faire l'an prochain? Qu'est-ce que les familles vont faire l'an prochain? Je voulais montrer ce que ça allait véritablement être. Est-ce qu'on a véritablement envie qu'un enfant de 11 ans, qui arrive déjà dans le collège, qui quitte l'école primaire, qui arrive dans le collège, il parte à 7h33 de l'arrêt de bus pour arriver à 8h30 au début des cours, avec son gros sac, deux changements, plus ses attentes dans des bus bondés le matin. Voilà, ça c'est la réalité. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont compris ça et qui se sont indignés de ça. Et j'espère que ce sera un signal assez fort pour toutes ces instances dirigeantes qui doivent décider simplement de l'avenir de 400 élèves l'an prochain.
Alors pour revenir sur cette vidéo deux secondes, hein, vous l'avez fait de manière complètement naturelle. En fait, vous êtes pointé au lieu où on explique un peu les trajets, vous êtes pointé au pôle d'échange, comme on dit à Évreux pour celles et ceux qui connaissent. Et en fait, vous vous êtes fait guider sur les changements, les horaires, à quelle heure passer le cap. Vous l'avez fait en manière concrète.
Alors exactement, parce que moi j'y connais rien en plus, hein, pour tout vous dire, je suis même assez mauvais en transport en commun, donc j'y suis vraiment allé naturel, je me suis bien fait expliquer, et le jour J je me suis même trompé, parce qu'en fait au pôle d'échange, il y a deux arrêts de pôle d'échange, il y a un arrêt qui s'appelle pôle d'échange Jean Jaurès, et un arrêt où on récupère l'autre bus qui est pôle d'échange SNCF, et c'est là qu'il faut traverser le grand boulevard qu'il y a juste devant la gare, donc ça moi j'imagine ça. Simplement,
un adulte qui a quelques difficultés, voilà. Forcément un collégien, ça va être compliqué.
Exactement, ça va être vraiment difficile. On pense également, maintenant on est en hiver, là, le mois de novembre, mois de décembre, quand il fait nuit à 7h30 du matin, enfin, comment ça se passe pour un élève de 12 ans qui va arriver là-dedans voilà. Pour moi, c'est vraiment une chose terrible et c'est vraiment très concret. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se rendre compte que c'est une mauvaise chose.
Monsieur Menot, je suis obligé de vous interpeller sur ce sujet-là. On a souvent, on entend dans les médias, mais aussi dans le ressenti de professeurs qui sont parachutés ou qui sont mis sur des établissements, on dit, difficiles dans des quartiers populaires. Là, en l'occurrence, on a quand même l'impression que les professeurs du collège Pablo Neruda tiennent à leur établissement et que, quelque part, ce sont des professeurs motivés à enseigner dans cette zone-là. On est donc, du coup, dans l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer médiatiquement de la situation de certains professeurs. Vous-même, vous êtes très motivé à l'idée de rester.
Ah oui, tout à fait. Alors, pour tout vous dire, moi, je suis au collège depuis 3 ans. Depuis 3 ans, et j'avais jamais enseigné en réseau d'éducation prioritaire. Et ça a été la chose qui m'a le plus frappé. Je suis estomaqué, impressionné de l'investissement que mettent les professeurs dans leur quotidien, dans les projets qu'ils vont faire auprès des élèves. C'est juste incroyable. Pour tout vous dire, allez jeter un coup d'œil sur le site internet du collège Pablo Neruda. Vous verrez la multiplicité des projets qui se font auprès des élèves, la chance qu'ils ont d'être dans un collège comme ça avec des professeurs. Je pourrais vous citer une dizaine de professeurs qui sont là depuis plus de 15 ans. Vous imaginez 15 ans dans un établissement comme ça, quand on sait ce qu'était le collège Pablo Neruda il y a 15 ans, quand on connaît les événements qu'il y a eu en 2005 ici à Évreux, ce sont des gens passionnés par leur métier, passionnés par leurs élèves et qui se battent véritablement au quotidien, au jour le jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, pour la réussite de leurs élèves. Et tous ces gens qui disent, on a eu le préfet récemment qui a dit devant caméra, qui a dit à des parents, c'est un collège qui a de mauvais résultats, on va mettre vos enfants dans des collèges qui ont des bons résultats. Non, on ne peut pas dire ça. Venez voir, venez. Et c'est simple, il y a une vitrine, allez sur le site du collège Pablo Neruda, vous verrez tout ce qui est fait par ces professeurs passionnés pour les élèves.
encore une chose, monsieur Menot, aujourd'hui, si je ne m'abuse, l'ensemble des professeurs du collège, mais aussi de certains établissements du quartier, puisque je crois que les quatre écoles primaires du quartier de la Madeleine sont fermées et soutiennent la démarche. Vous-même, professeur et enseignant au collège Pablo Neruda, et ainsi que l'ensemble de vos confrères et consœurs, vous êtes en grève.
Bien sûr qu'on est en grève, et notamment, on a le soutien de toutes les écoles primaires, parce que pour eux, c'est aussi très très important. On ne ferme pas juste un collège. Si on ferme le collège, le réseau d'éducation prioritaire plus n'existe plus. Et M. Macron, notre président de la République, est très fier de crier partout qu'il y a les cours préparatoires à 12 élèves, le fameux CP à 12. Il est mis en place à la Madeleine. C'est très bien, c'est une bonne chose. Les élèves apprennent mieux, ce sont des conditions très confortables. Mais si on enlève le réseau REP+, c'est fini tout ça. Les moyens financiers, les moyens humains ne sont plus là. Alors malgré les promesses faites par la mairie et par le département pour dire « Attendez, on va vous aider », etc. Bien sûr, ils vont nous aider. Bien sûr, il y a toujours cette poudre aux yeux. Un an, deux ans, et puis après, c'est débrouillez-vous. Le conseil départemental reçoit des parents et leur dit « Non mais attendez, pour les transports c'est pareil, on va vous aider, mais pour la cantine, il n'y a pas de problème madame, on va vous filer un coup de main. » Mais oui, mais combien de temps? Comment ça va se passer? On ne croit pas trop à ces vaines promesses. On a vu les hommes politiques retourner leur veste. Rentrée 2015, monsieur Lecornu était en train de dire devant caméra, c'est filmé, que Pablo Neruda était un excellent établissement et que c'était ce que se faisait mieux dans l'école de la République. Et 6 mois plus tard, il nous annonce qu'il veut fermer le collège. Sa seule réponse derrière ça, c'est « il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Oui, les hommes politiques changent d'avis. Et malheureusement, le quotidien de tous les professeurs des écoles, des élèves, des parents d'élèves et des enseignants va être chamboulé. Donc évidemment, tout le monde est en grève. Et il n'y a pas que nous, il y a aussi tous les établissements d'Evreux qui ont de nombreux grévistes. Parce que ça n'impacte pas juste les trois établissements.
Ouais, c'est ce qu'on oublie. Ouais.
Les trois établissements vers lesquels vont être dirigés les élèves.
On les rappelle, s'il vous plaît.
Alors, Jean Jaurès, Paulbert et Navarre. Ces trois établissements vont absorber entre 120 et 130 élèves chacun. En plus... Vous imaginez ça? Mais évidemment, comme on ne peut pas absorber 120 ou 130 élèves, c'est un jeu de chaise musicale. Il y a certains élèves de ces établissements qu'on va envoyer vers d'autres établissements. Mais il n'y aura toujours pas assez de place dans ces autres établissements. Donc on renvoie cela dans d'autres établissements. Pour prendre un exemple concret, il y a des élèves qui sont scolarisés à Gravigny, au collège de Gravigny, Marcel Pagnol, qui devront aller au collège à Gaillon l'an prochain. Vous imaginez? Donc voilà, il y a une vingtaine d'établissements qui sont
impacté,
touchés.
Ouais.
Qui sont touchés par cette refonte de carte scolaire. Il faut que tous les parents en soient bien conscients, que tous les professeurs en soient bien conscients. Si on discute un petit peu avec les chefs d'établissement, même de Jean Jaurès, de Paulbert ou de Navarre, ils ne sont pas concertés. Ils ne savent pas comment ils vont faire l'an prochain. Qu'est-ce que ça va générer en termes dans les salles de classe? On n'a pas des salles de classe extensives. Comment on va faire pour accueillir ces élèves? Dans la cour, à la cantine, comment on fait? On fait 2 services, 3 services, 4 services, comment ça se passe? Les transports, personne n'est au courant de rien. Et malgré tout, si la fermeture se fait, c'est demain. Il va peut-être falloir s'en inquiéter assez vite.
Voilà, toujours le 7 novembre, il est 11h20. Et je suis en compagnie de plusieurs professeurs du collège Paul Bert à Évreux qui seront dans l'absolu aussi impactés par la situation potentielle de la fermeture du collège Pablo Neruda. Bonjour Aline Chauvière.
Oui, bonjour.
Vous êtes professeur de PS, c'est ça,
oui.
À Paul Bert?
Oui, tout à fait, oui.
Vous
depuis
êtes...
10 ans.
Depuis 10 ans, pardon. Bon, voilà. Vous êtes présente aujourd'hui, comme j'imagine beaucoup de confrères et de consoeurs, parce que touchée par la situation de ce qui se vit à Pablo Neruda, mais aussi parce que potentiellement une somme des élèves pourrait intégrer votre établissement à la rentrée prochaine.
Oui, tout à fait. Dans un premier temps, la fermeture de Pablo Neruda, pour nous, c'est un désastre. C'est un vrai recul de la République dans ce quartier qui peut être difficile, qui présente des difficultés, on le sait, mais... Fermer un collège là-bas, pour nous, ce n'est pas du tout la solution. Et effectivement, aussi au niveau du collège, accueillir ses élèves, bien évidemment, mais sans avoir les moyens forcément dont bénéficiait le collège Pablo Neruda sur son site, ce serait une catastrophe pour ces élèves qui nécessitent un accueil particulier avec des moyens particuliers.
Là, aujourd'hui, début novembre, on peut quantifier le nombre d'élèves qui potentiellement vont intégrer votre établissement l'an prochain?
Oui, normalement, ce serait plus d'une centaine.
D'accord. Dans un établissement qui déjà, j'imagine, a des effectifs conséquents.
Actuellement, nous sommes à 500 élèves à peu près, avec une capacité pédagogique d'accueil maximale située autour de 550 élèves. Donc si on ajoute plus d'une centaine d'élèves aux 500 qu'on accueille déjà actuellement, on dépasse largement la capacité d'accueil de l'établissement. Mais également des problèmes de sécurité par rapport à si on accumule trop d'élèves dans un site qui n'est pas adapté pour ça. Ça pose des problèmes de circulation dans les couloirs, ça pose des problèmes de circulation effectivement et d'accueil au niveau de la demi-pension, au niveau des installations aussi. Il faut pouvoir accueillir les élèves, y compris pendant les temps où ils n'ont pas forcément cours. Et ça, on ne dispose pas forcément des salles nécessaires pour cela.
Aujourd'hui, donc, ce mouvement est complètement légitime. Votre présence est naturelle à leur côté pour faire force de voix, en tout cas.
Bien sûr, c'est l'éducation nationale qui est remise en cause, l'offre de l'éducation nationale sur le territoire qui est remise en cause aujourd'hui. Et c'est normal qu'on s'associe aux collègues dont les établissements sont menacés de fermeture pour exprimer notre voix et dire que nous ne sommes pas d'accord avec la politique qui est menée actuellement.
Merci. Mesdames, un mot à rajouter. Vous êtes vous aussi enseignant
Oui, on est enseignante au collège Paul Bert aussi.
Ouais,
et on soutient tout à fait ce que vient de dire notre collègue Aline.
Très bien. Voilà. Vous êtes une délégation. En plus, vous êtes syndiquée, je vois un drapeau.
Oui.
Ouais. C'est quel parti, quel mouvement ?
Force ouvrière.
D'accord. Qui est complètement derrière aussi cette action ?
Oui, tout à fait. Nous siégeons notamment au CDEN qui est en train de se réunir. Nous avons des élus qui siègent actuellement.
D'accord. Donc, on en sort un petit peu plus là, à la fin de la réunion qui tarde. Voilà. Ouais, c'est depuis ce matin, 9h30, hein, je crois, hein,
oui,
qu'ils sont en réunion.
Oui, c'est ça, oui. Bah, y a beaucoup de personnes représentées, des parents d'élèves, des élus, des maires, les différents représentants syndicaux, plus les élus politiques. Donc, forcément, c'est un projet qui est loin de faire consensus. Donc qui entraîne des débats et c'est forcément un peu plus long.
Oui, parce que quelque part, on entend les institutions comme la mairie, comme le département qui seraient pour cette fermeture. À l'inverse, on entend les syndicats, les parents, mais aussi les professeurs qui sont contre. On attend la balance.
Voilà, tout à fait. Et puis, il y a aussi un impact au niveau de l'inspection d'académie, mais qui ne veut pas prendre parti, puisque ça relève de la compétence du conseil départemental. Mais l'inspection d'académie est fortement impactée aussi, puisque c'est elle qui gère les moyens de l'éducation nationale, les postes d'enseignants, etc. Mais pour l'instant, ils ne souhaitent pas s'exprimer sur le sujet, c'est dommage.
Merci Aline Chauvien, on rappelle, hein, vous êtes professeur au d'EPS au collège Paul Bert, depuis 10 ans. Merci.
Merci.
Toujours face à la préfecture avec d'autres professeurs issus d'autres établissements que celui de Pablo Neruda. Bonjour à vous, madame.
Bonjour.
Vous êtes enseignante où, s'il vous plaît ?
Je suis à l'école de la Forêt à La Madeleine.
Et vous êtes à Évreux et vous êtes aujourd'hui vous présente dans ce cortège, dans cette interpellation de cette réunion au CDAM qui est en train de statuer ou non sur la fermeture de Pablo Neruda mais Pierre Mendès France aussi au Val-de-Reuil. Pour quelle raison ?
Parce que aujourd'hui on a beaucoup de choses grâce au réseau. C'est-à-dire qu'on a des maîtres supplémentaires, on a des CPA 12 depuis que M. Macron est passé président. Et si demain le collège ferme, on perd tous nos avantages, on va dire, pour aider des élèves en difficulté.
Le CPA 12, c'est cette fameuse histoire de classe primaire allégée.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un CP ou un CP avec un CPC1, on a deux CP avec 13 élèves dans nos classes, ce qui permet de pouvoir aider tous les élèves. Et d'avoir plus de temps pour chaque enfant.
Ouais, ce qu'il faudrait dans l'absolu presque partout et pour tous les niveaux. En l'occurrence, donc, vous seriez forcément impacté. C'est naturel que d'être présent aujourd'hui parce que si j'ai bien compris, sur toutes les écoles primaires du quartier de la Madeleine, que ce soit Joliot, Maxime Marchand, l'école de la Forêt
là.
Et même des
a priori,
maternelles de Jean Moulin aussi, j'ai entendu.
Ouais.
Vous êtes touché.
On est un réseau,
ouais.
On fonctionne ensemble. Si Pablo ferme, on ne fonctionnera plus. En tout cas, on dépendra plus d'un même collège. Là, tous les enseignants de CP de la Madeleine travaillent ensemble. Si demain, Pablo ferme, on va dépendre de Paul Bert, de Navarre. On ne pourra plus travailler ensemble. Et on ne pourra plus avoir un impact sur la population.
Bonjour.
Vous êtes vous aussi enseignant, c'est ça, hein ?
Oui, je suis enseignant pour enfants migrants à l'école Joliot-Curie à la Madeleine.
On parlait aujourd'hui de ce mouvement pacifiste, mais en tout cas bruyant, on l'entend derrière nous, concernant la fermeture ou non de l'établissement collège de Pablo Neruda. Pourquoi vous êtes là et pour quelles raisons vous seriez touché par cette situation, si fermeture il y avait ?
Alors, le réseau d'éducation prioritaire, il veut dire que les établissements travaillent de concert ensemble et que la tête de réseau, c'est le collège. Donc les moyens de l'éducation prioritaire sont liés à la tête de réseau. Donc le collège Pablo Neruda duquel nous dépendons nous donne droit à des moyens supplémentaires en termes de salaire pour les enseignants, mais aussi en termes d'effectifs, en termes de renforcement humain sur le terrain. Donc la fermeture de Pablo Neruda et les élèves de Pablo de l'école Joliot-Curie où j'exerce devraient arriver à Paulbert, qui lui ne sera pas classé en éducation prioritaire, fera que mécaniquement les écoles Joliot-Curie maternelles et primaires perdront à partir de 2019 leurs moyens de l'éducation prioritaire.
Donc quelque part c'est comme cette fameuse image, on coupe la tête et on arrive tout en bas de l'échelle, ça a un impact sur toutes les couches proches de l'établissement.
Alors oui, ça va impacter effectivement toutes les écoles et largement les familles, parce qu'en ce moment, il y a sur la Madeleine, ça a mis 10 ans à se construire, un climat scolaire absolument exceptionnel. Hein. Moi, j'arrive en fin de carrière, je suis en train de vivre parmi les plus belles années de ma carrière, avec des élèves qui viennent avec le sourire et avec l'envie, et avec des collègues qui sont heureux de venir travailler ensemble aussi. Et tout ça va se perdre, hein, forcément.
Aujourd'hui, on espère tout de même maintenir cet établissement. Vous êtes là de manière solidaire, vous êtes là aussi lié à votre poste, ou c'est un ensemble de raisons qui font que vous êtes présent aujourd'hui?
Non, moi j'ai initié le collectif citoyen qui s'appelle Privé de Collège, qui a tenu la première réunion sur le quartier, c'était le 23 septembre 2016, pour réveiller un petit peu tout le monde, pour faire prendre conscience de ce qui était en train de se tramer et que la promesse de fermeture n'était pas un vain mot. On avait bien perçu la réelle volonté de fermer les collèges d'éducation prioritaire dans le quartier. Donc moi, je me suis mobilisé très tôt, d'abord avec les habitants et les parents d'élèves, parce que ça ne concerne pas seulement les enseignants, qui eux seront reclassés, quoi qu'il arrive, même s'ils ont beaucoup à y perdre et même si la République a beaucoup à y perdre. Donc les enseignants seront reclassés, les habitants, eux, seront toujours là, privés d'un paquebot de la République dans le quartier, alors où la radicalisation va galopante. C'est une folie. La fermeture de cet établissement est une folie. On va revenir 15 ans en arrière avec des enseignants qui vont arriver sur la Madeleine parce qu'ils n'auront pas d'autre choix et qu'ils n'auront pas d'autre poste, qui feront un an ou deux ans et fuiront le plus vite possible, parce que nos écoles sans moyens humains supplémentaires, avec des effectifs équivalents à celles qui peuvent exister ailleurs, ça va devenir très compliqué.
Ouais, et puis, après, je n'ai pas de chiffres précis, mais on me parle d'un baby-boom en 2010, on me parle d'études très précises sur le fait que les effectifs vont exploser dans les années à venir, et de ce que j'ai compris, une centaine d'élèves supplémentaires potentiellement dans 4 ou 5 ans sur le territoire de la Madeleine, en âge d'aller au collège, on leur retire un établissement, mais il faudra en avoir plus d'élèves.
Oui, alors le quartier était à nouveau, après des destructions d'immeubles et la rénovation urbaine, on a perdu effectivement 1000 appartements et des groupes scolaires, hein, enfin des demi-groupes scolaires. Le quartier était à nouveau en croissance démographique. On a ouvert des classes dans les écoles primaires. On a ouvert une division à Pablo Neruda à la rentrée dernière. Hein, on ferme un collège qui est novateur pédagogiquement, qui avait une nouvelle classe de 6e, et où les collègues, en dépit de l'annonce de la fermeture, n'ont pas demandé à muter. Il y a un vrai esprit de corps autour de cet établissement. Il se passe quelque chose, moi, que j'avais pas connu auparavant, entre les professeurs, entre les familles, entre les élèves, et qui irradie sur le quartier. Donc là, on a affaire à des responsables qui se comportent en irresponsables, qui se rejettent chacun la responsabilité les uns sur les autres. Le préfet, c'est pas de sa faute. Le conseil départemental, c'est pas de sa faute. Le maire d'Evreux, qui est quand même protagoniste de la politique de la ville, c'est pas de sa faute. Et le DAZN, c'est pas de sa faute. Donc c'est la faute de personne. On a un peu ces blocages liés à cet éclatement institutionnel et aux usines à gaz administratives que sont devenues notre pays, qu'ont généré notre pays. On est face effectivement à des politiques complètement irresponsables.
Vous ne lâchez pas l'affaire, vous y croyez toujours, ou vous semblez que ça paraît mal engagé? Quel est votre ressenti, vous, à vous, aujourd'hui?
Mon sentiment, moi, est que aujourd'hui, les seuls qui sont en capacité de sauver le collège, ce sont les usagers, les habitants du quartier. Et il faut que la mobilisation vienne également des habitants. Ils étaient là nombreux aujourd'hui, mais pas suffisamment au regard des enjeux, et de manière à engager un véritable rapport de force, puisqu'on en est bien là aujourd'hui. Les arguments ont été posés, ceux que nous avons à opposer ne trouvent en face qu'une espèce de pensée magique qui pense que on nous parle de croyance, hein. Je crois que, c'est ce que dit le préfet, je crois que, c'est ce que dit le président du conseil départemental. Nous, en face de ça, nous avons des certitudes et de l'expérience. Donc on se retrouve effectivement confronté à un pouvoir irresponsable, mais qui est bien décidé à aller jusqu'au bout, et si on veut le faire reculer, il n'y aura pas d'autre alternative que le rapport de force.
Merci Vincent, enseignant à Joliot-Curie.
Merci à vous.
Bonjour, rebonjour. Bon, bravo d'abord, parce que ça nous a bien aidé, le soutien musical. Et bravo pour votre détermination, parce que quand même il faisait froid et vous n'avez jamais molli. Alors, on va faire un petit compte-rendu très rapide, et c'est assez simple. Alors, d'une part, le vote sur la resectorisation qui a été présentée et le vote qui a été fait a donné une majorité écrasante contre cette resectorisation. C'est-à-dire que le conseil départemental, la préfecture et l'éducation nationale ne peuvent pas se prévaloir d'un vote favorable pour cette resectorisation, que ce soit sur le secteur d'Evreux ou le secteur de Louviers-Val-de-Reuil. Ça, c'est la première chose. Il y a eu 17 voix contre, 5 voix pour et une abstention. Donc, ce qu'on a expliqué, c'est que la détermination des personnels, des familles était intacte et même grandissante, puisque là, des établissements se sont mis en grève aujourd'hui. Le deuxième point, c'est qu'en fait, toutes les demandes que l'on a formulées, c'est-à-dire de documents, donnant les calculs de départ, les documents d'experts, les documents qui ont servi de base à cette resectorisation, tous ces documents ne nous sont pas remis. Donc à aucune de nos demandes, on a obtenu satisfaction, ce qui pose un problème. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette resectorisation est faite sans à aucun moment qu'on puisse avoir un regard sur la façon dont c'est fait. La troisième chose, c'est qu'en fait, l'organisation de cette resectorisation se traduit par ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire une dégradation pour tout le monde, que ce soit les familles, les personnels ou les élèves. Et sur les questions précises, très concrètes qu'on a posées, on ne peut pas dire qu'on a eu de réponse. Donc en fait, il y a toutes les raisons de s'inquiéter aussi pour les personnels et pour les familles sur la faisabilité d'une telle resectorisation. Ça veut dire qu'en fait, dans les conditions actuelles, la rentrée scolaire se ferait prochainement, en rentrée de septembre 2018, dans des conditions qui ne sont pas propices à la réussite des élèves. Quoi qu'en dise le conseil départemental, la préfecture et l'inspection académique. Nous avons demandé tout simplement des choses très simples. Est-ce qu'il y aura un CPE supplémentaire dans les établissements concernés? Est-ce qu'il y aura des assistants d'éducation supplémentaires? Est-ce qu'il y a un seuil de calcul des effectifs par classe supplémentaire? C'est-à-dire, par exemple, que les élèves qui arrivent dans ces établissements sont dans des classes avec des effectifs allégés. Aucune réponse à ces demandes. Et je pense que c'est des demandes légitimes des parents et des familles et des personnels. Et là, on va dans l'inconnu total. Et ce qui confirme non seulement nos craintes, mais ça confirme aussi le fait que cette resectorisation est un mauvais projet et que la seule solution, c'est qu'il soit abandonné.
Bulle et reportage, principe actif.
Bulle et reportage.
Bulle et reportage, principe actif.
Bulle et reportage.
Conférence de presse à l'hôtel du département en ce mardi 7 novembre pour parler de la nouvelle organisation de la carte des collèges de l'heure de la rentrée 2018. Suite à la réunion du conseil départemental de l'éducation nationale qui se déroulait le matin même, en présence de Pascal Lehongre, président du département, de Sylvie Legratier, qui est la directrice des collèges, ainsi que de Benoît Gatinet, vice-président en charge des collèges. En présence des différents médias du territoire, France Bleu, France 3 Normandie, Paris Normandie, leur info La Dépêche.
Un des premiers travaux qui m'a été commandé en tant que directrice des collèges lorsque la nouvelle majorité a été élue, ça a été de faire un état des lieux de l'état de nos collèges, état des lieux budgétaires, bâtimentaires, en termes de réussite éducative également. Et suite au constat alarmant sur l'état du bâti de certains collèges, puisque notre département se caractérise par encore 14 collèges paillerons, c'est énorme par rapport à d'autres collectivités. La nouvelle majorité a décidé d'un plan d'urgence, d'un plan d'investissement très important de 172 millions d'euros consacré à l'amélioration du bâti. Et bien sûr, en priorité, à l'éradication des collèges paillerons. Donc 16 collèges vont être reconstruits en 5 ans, 11 reconstructions totales et 5 restructurations lourdes et des extensions. C'est important de souligner que c'est un effort sans précédent, surtout dans un contexte budgétaire qui est aujourd'hui compliqué pour toutes les collectivités. Il faut savoir que dans l'heure, nous avons des situations très difficiles à gérer en ce moment. C'est le cas par exemple du collège Pierre Corneille-Neubourg, qui dispose d'une capacité d'accueil de 600 élèves et qui en accueille aujourd'hui pas loin de 900 avec 10 classes mobiles. Ce qui a d'ailleurs conduit la collectivité à décider de la construction d'un second collège de Neubourg qui sera livré en septembre 2019. C'est aussi le cas dans le Roumois, une très très forte tension démographique scolaire sur le collège Pierre Mauroy de la Saussée où 752 élèves sont accueillis dans un collège de 600 places, là aussi avec un certain nombre de classes mobiles et même un restaurant modulaire qui peut accueillir 300 élèves. Dans les décisions prises par la majorité, donc le nouveau collège du Neubourg, j'en parlais tout à l'heure, livré en 2019, qui va coûter 13,5 millions d'euros. Le collège Jean Rostand, vous avez quelques photographies, on voit mal les filets, mais il est recouvert de filets puisque toutes les plaques sont en train de tomber. Donc là, un état aussi de vétusté important et de la présence d'amiante qui permet difficilement de réaliser des travaux structurants. Donc la livraison à la rentrée scolaire 2021. La Saussée, on en parlait tout à l'heure, qui est à saturation, qui sera livrée en 2022 pour 14 millions d'euros. Le collège Le Hameau de Bernay, dont on craint à chaque tempête qu'il s'écroule et qui tient avec les sangles, donc qui est dans un très très piteux état et qui va être livré en 2021 également pour 15,6 millions d'euros. Le collège Le Hamelet à Louviers, 19,1 millions d'euros, livraison prévue en 2022. Les photos se passent de commentaires. Le collège Maurice de Broglie à Broglie, donc vous voyez les bâtiments hein, qui ressemblent à des baraquements d'après-guerre, et la livraison est prévue fin 2020. Le collège Victor Hugo à Rugles, qui va être reconstruit également pour 14,8 millions d'euros, livré à la rentrée scolaire 2022. Le collège Hyacinthe Langlois de Pont-de-l'Arche pour 13,5 millions d'euros avec une livraison en 2021, là aussi sur un secteur démographie scolaire en tension. Donc c'est un collège qui va aussi être augmenté en termes de capacité d'accueil. Le collège César Lemaître à Vernon, qui sera livré en 2021 pour 15,5 millions d'euros. Le collège Louise-Michel, qui est actuellement implanté à Manneville, et pour des questions de carte scolaire est déplacé sur Bourneville qui sera livré à la rentrée 2021 pour 19,2 millions d'euros. Voilà pour les reconstructions. Vous avez également 5 collèges qui font l'objet d'une restructuration lourde ou d'une extension. C'est le cas par exemple de Marcel Pagnol à Gravigny, du collège Le Roumois à Routot, qui va être étendu, Simone Signoret au Val d'Azay, qui va bénéficier d'une restructuration importante, puisque là aussi, des travaux étaient nécessaires, le collège des Sept Épis à Saint-André également, et le collège Van Kezel à Thiberville, pour 7,8 millions d'euros. Vous avez vu que dans les échéances de livraison, tout se situe entre 2019, 2021, 2022. Donc c'est un effort à la fois financier, puisque nous disposons de ces budgets, mais aussi un effort technique de l'ensemble de la collectivité, puisque toutes ces constructions sont à lancer quasiment en même temps. Alors, au-delà de ces aspects de construction ou d'extension et de rénovation, c'est important de souligner que l'éducation, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là dans certaines instances, l'éducation demeure une priorité pour le département, puisque on a pu constater un budget multiplié par 3, notamment pour tout ce qui a trait au déploiement du numérique dans les collèges. nous disposions en 2015 de 600 000 euros à peu près sur tout ce qui était numérique, quand on compte la fibre, les équipements en micro-ordinateur, les ENT, la maintenance n'existait pas parce que c'est une compétence qui nous a été transférée au 1er septembre. Mais nous avions quand même un certain nombre de collèges privés et nous sommes passés de 600 000 euros de budget à cette année 1 945 000 euros. Donc un effort considérable qui est très apprécié d'ailleurs de nos principaux de collèges. Un effort important a également été réalisé sur la vidéoprotection pour garantir la sécurité des personnes et des biens dans nos établissements. Et dès aujourd'hui, ce sont 23 collèges qui, en 18 mois, ont été équipés de la vidéoprotection et nous lançons à partir de 2018 un nouveau plan d'équipement. Important de souligner également que grâce à une simplification administrative et à un recentrage de nos bourses sur les collégiens, puisqu'auparavant les étudiants et les lycéens étaient aidés, mais il a été considéré que ça relevait plus de la compétence de la région et de l'État, nous sommes recentrés sur notre public cible qui sont les collégiens, et avec la même enveloppe financière, 1,2 million qui n'a pas diminué, c'est important de le dire, nous avons aidé beaucoup plus de familles. Et vous avez des chiffres, là, 2836 familles aidées en 2015, nous sommes passés en 2016 à 6631 familles aidées. Aujourd'hui, le budget consacré à l'éducation s'approche des 73 millions d'euros par an, soit 2532 euros par collégien. Donc, un effort important, hein, puisque c'est un budget qui a augmenté de 26,5% fonctionnement investissement confondu. Il y a peu de politiques dans ce département qui ont bénéficié d'un tel soutien. Alors, pour venir à la carte scolaire, lorsque le vote a été décidé de ce plan d'investissement important, la fermeture de deux établissements ont été actées à ce moment-là, donc en juin 2016. Et lors du CDEN qui a suivi quelques jours après, le préfet et le président du conseil départemental ont demandé au service de l'éducation nationale et à nous-mêmes, au service, de travailler en visant un objectif d'une meilleure mixité sociale, parce que les constats sur les deux collèges en question montraient qu'ils se trouvaient avec un taux de CSP, les catégories socio-professionnelles, très élevé par rapport à d'autres établissements. Et puis surtout, le rectorat nous avait demandé, lors de la création et de la décision de la création du deuxième établissement de Bourg, de fermer au moins un collège, considérant que 57 collèges dans l'heure, vu les effectifs de collégiens, ça ne se justifiait pas. Et donc, on avait un courrier là, du 4 novembre qui nous demandait de fermer un établissement. Nous avons essayé, je dis bien essayé, ça n'a pas été facile sur tous les secteurs, d'entamer cette démarche de travaux sur la carte scolaire en privilégiant la consultation des partenaires et bien sûr nous avons eu recours à des expertises. Alors, ont été consultés les élus, les élus maires des grandes villes, hein, on n'a pas fait le tour de tous les élus, mais les maires des grandes villes, les conseillers départementaux qui étaient concernés par cette resectorisation, tous les services de la DSDEN, et j'ai envie de dire même du rectorat, on a rencontré plusieurs personnes du rectorat, tous les principaux de collège ont été individuellement et par secteur réunis pour être entendus sur leurs souhaits en matière de carte scolaire. Nous avons bien sûr travaillé avec les services d'urbanisme pour prendre en compte les prévisions de construction de logements sur les deux secteurs concernés, parce que ça a un impact évidemment sur les effectifs.
Et globalement, 10% représente 10% de la population. Les collégiens représentent globalement 10% de la population.
Des logements construits.
Des logements construits.
Voilà. Et nous avons tenté de travailler, bien sûr, avec les transports de l'agglo et de la communauté Seine-Eure. Nous avons, pour vérifier un certain nombre d'éléments qui nous semblaient très importants, des éléments de base lorsqu'on veut construire un travail de ce type-là, vérifié toutes nos capacités d'accueil. Donc, capacité d'accueil en enseignement, et pour ça nous avons fait appel à un spécialiste qui est l'atelier 21. Nous avons vérifié nos capacités en restaurant scolaire en faisant appel à ID Engineering, un autre cabinet consultant. Et nous avons travaillé en étroite collaboration avec un partenaire que nous connaissons depuis des années, avec lequel nous sommes en partenariat, sur toutes les projections d'effectifs. Et notamment, Alpa Mayo, qui est le fameux cabinet en question, a intégré dans les données de projection des effectifs tous les projets de construction. Et nous avons géolocalisé tous les programmes de construction à venir, tous ceux dont on avait évidemment connaissance. Dans les critères qui ont été pris en compte, que nous devions croiser pour arriver à un point d'équilibre sur cette carte scolaire, nous avons pris en compte plusieurs critères. Bien évidemment, tout d'abord, les capacités d'accueil en enseignement. On ne peut pas mettre plus d'élèves qu'on avait de place dans le collège. La même chose pour ce qui concerne les restaurants scolaires. Nous avons également pris en compte la carte des écoles primaires. Il y avait sur les deux territoires plusieurs écoles qui étaient réparties entre plusieurs établissements. Dans le cadre de la continuité pédagogique, et notamment du cycle 3 CM1, CM2, 6e, l'Éducation nationale nous avait demandé d'être le plus possible en conformité avec une école, un collège. Nous avons évidemment pris en compte les évolutions démographiques sur les deux territoires, les projets d'urbanisme, j'en parlais tout à l'heure, des incidences sur les temps de transport, on a fait des évaluations des temps de transport à chaque modification de la carte scolaire. Nous avons supprimé les doubles sectorisations existantes, il y avait sur quelques communes, trois sur Évreux et une sur Louviers, des communes qui étaient partagées entre deux collèges, on les a affectées à un seul. Nous avons pris en compte évidemment les échéances de livraison des nouveaux collèges et bien sûr nous avons respecté le découpage territorial des deux agglomérations. Le croisement et l'équilibre de tous ces critères n'ont pas été simples lorsqu'on rajoute un autre critère essentiel, on en parlera tout à l'heure, la mixité sociale, l'équilibre sur la mixité sociale. Jean-Rostand, c'était extrêmement difficile de toucher à sa sectorisation parce qu'il est excentré. Il est excentré, il est sur le plateau et pouvoir conduire des élèves de la Madeleine sur ce collège s'est avéré pour des questions de transport extrêmement complexes et de temps de trajet extrêmement compliqués. Ceci dit, sur ce collège, nous avons demandé à l'inspecteur d'académie de pouvoir y implanter la classe UP2A. Donc, c'est une classe qui accueille des jeunes mineurs non scolarisés étrangers, ne parlant pas le français, et qui pourrait, en tout cas, ça lui a été demandé, être implantée sur ce collège Jean Rostand. Donc, une amélioration notable de l'équilibre, de la mixité sociale sur ce territoire.
J'ai une question. Ça veut dire que, par exemple, les élèves, moi je suis élève aujourd'hui à, on dirait pas, 5e, j'habite Sierre, oui. Je suis élève à Jean Jaurès, ça veut dire que l'année prochaine, je vais à Henri Dunant ou je reste à Jean Jaurès, je poursuis ma scolarité à Jean Jaurès.
C'est intéressant, c'est une bonne question. Uniquement les élèves actuellement scolarisés à Pablo Neruda seront affectés en totalité dans leur nouveau collège. D'accord ? Les élèves des communes qui changent de collège vont poursuivre leur scolarité, s'ils le souhaitent, dans le collège où ils ont commencé leur cursus de 6e. Tous ceux qui ont commencé leur 6e pourront terminer leur scolarité.
Également la fratrie.
Et y compris la fratrie, s'ils le souhaitent.
D'accord.
Ce ne sont que les élèves qui vont rentrer en 6e, les élèves de Siret qui vont rentrer en 6e l'année prochaine, qui iront dans ce nouveau collège.
Et qui n'auraient pas de frères et sœurs dans les autres collèges. Ils iront.
D'accord. Ce qu'on appelle sectorisation en sifflet, c'est-à-dire que les élèves vont y rentrer progressivement sur les 4 années qui viennent pour les communes. qui n'étaient pas affectés à Pablo Neruda.
Ça veut dire que des enfants d'une même commune vont pouvoir aller dans deux collèges différents.
Ça se
traduit comment au niveau des transports?
Double circuit.
Double circuit, ouais. D'accord.
Alors attention de dire souvent on double les bus, ce n'est pas tout à fait le cas, puisqu'aujourd'hui on adapte quand même nos circuits, puisqu'il y a toujours le même nombre d'élèves à transporter. Ouais. Donc à un moment on fait faire un détour à un bus ou on fait prolonger un circuit. Hein, quand on dit double, c'est double distribution, mais pas forcément double circuit avec deux quarts ou trois quarts. On adapte les circuits en fonction des besoins. Et toujours en essayant que, comme nous la règle nous le dit aujourd'hui, pas plus d'une heure maximum en temps de déplacement.
Donc ce travail technique n'est pas terminé, puisque nous avons maintenant à travailler sur la préparation de la rentrée scolaire 2018, nous avons des enjeux forts à relever pour accompagner à la fois les établissements, mais également les parents et les enfants dans ce changement. Par exemple, nous allons, sur les deux territoires, engager des travaux en concertation avec les responsables des transports scolaires sur l'aménagement des nouveaux circuits, en veillant à ce que les temps de circuit soient les plus courts possibles. Sur des tarifications qui soient la plus favorable possible aux familles, et notamment pour les familles les plus défavorisées. Nous allons travailler sur le versement des bourses départementales aux collèges en complément des bourses nationales, pour couvrir l'intégralité, en tout cas, des frais de scolarité. Pour exemple, il faut savoir qu'une famille qui touche une bourse nationale de taux 3 et une bourse départementale en complément, le collège va percevoir 650 euros, va déduire les 450 euros de restauration scolaire pour l'année scolaire et va reverser à la famille 200 euros pour les frais de transport et pour les dépenses annexes. Nous allons simplifier et faciliter les démarches administratives, c'est-à-dire que nous allons nous baser sur les mêmes critères d'octroi des bourses nationales, c'est-à-dire qu'un enfant d'une famille aura une bourse nationale d'un taux 3, elle aura une bourse départementale d'un taux 3, automatiquement, et sur la base des mêmes justificatifs. Donc pas de double dossier, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait un dossier unique pour éviter aux familles d'avoir deux dossiers à mettre en place. Et puis enfin, et je réunis le groupe de travail demain après-midi, nous allons travailler avec les principaux des collèges des deux territoires sur des mesures d'accompagnement social pour permettre la persévérance des élèves et leur réussite scolaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces élèves soient le mieux accueillis possible dans des collèges qu'ils ne connaissent pas, comment convaincre les familles des bienfaits de la restauration scolaire. Parce qu'au-delà de l'aspect financier, il y a aussi des habitudes culturelles qu'il va falloir aider à prendre en compte. Donc nous allons engager ce travail avec un consultant qui est très connu au niveau national, spécialisé dans le domaine de l'éducation, qui s'appelle Éducation et Territoire, et qui est chargé de coordonner des groupes de travail qui figurent là sur cette diapo, et qui seront force de proposition de façon à être prêts pour réussir une rentrée scolaire en 2018 en faveur de ces collégiens qui changent de collège.
Alors, plus de 4000 places, oui. 4000 places disponibles, ça veut dire que vous pourriez fermer d'autres collèges?
Alors après, il y a la problématique des distances. Hein. On a bien expliqué tout à l'heure.
Vous avez donné un exemple de temps limité.
Oui, à une heure.
Une heure. C'est beaucoup déjà. Une heure, on va aller très loin dans le département.
Mais parce que vous prenez une heure en ligne droite. Mmh. Mais souvent, c'est des circuits en boucle. C'est-à-dire que le circuit est en boucle. On part pratiquement de l'endroit où on est le plus près pour faire la boucle, pour ramasser tout le monde et l'amener au collège. Et le soir, de façon à ne pas pénaliser ceux qui sont les plus loin ou les plus près, on repart dans le sens inverse. Donc souvent, les premiers prix sont le soir redéposés en premier, de façon à optimiser et d'avoir un temps, je dirais, égal pour les élèves. Quand on peut faire des circuits en boucle, on ne peut pas toujours. Et puis, quoi qu'il arrive, on a aussi certains secteurs qui sont en démographie et qui vont être en augmentation. Donc, on ne peut pas aujourd'hui tout fermer. L'objectif, c'est de rationaliser sur tout le territoire et d'avoir un équilibre sur les différents territoires. Il faut savoir que par rapport à ce que Sylvie vous a présenté aujourd'hui, bien sûr, entre le 1er janvier 2018 et, je dirais, septembre 2018, l'atelier 21 a travaillé pour optimiser les collèges aujourd'hui qui vont accueillir ces élèves. C'est-à-dire qu'un certain nombre de travaux vont être mis en place par la réalisation de nouvelles salles. Il y a des surfaces aujourd'hui qui sont construites non utilisées. Et ben, on va les équiper, dans certains, on va construire 4 salles. Donc, on va optimiser nos moyens aussi.
Justement, s'il y a 900 places libres, vides, dans les collèges d'Évreux, pourquoi il y a des élèves qui doivent partir au Neubourg ou à Gaillon?
Alors, dans la carte scolaire telle que je vous l'ai présentée, vous avez des élèves qui rentrent et d'autres qui sortent. Mais on a suffisamment de place dans Évreux pour accueillir tous les élèves. Il n'y a aucun souci là-dessus.
Oui, mais il y a bien des élèves qui vont aller au Neubourg.
Ben, c'est en termes de cohérence. Enfin, c'est une cohérence de bassin.
Il y a des communes qui rentrent.
Et, oui, et puis il y a des communes qui rentrent également. Et on a de la pression. Et on a une pression, pas sur Évreux, plus autour d'Évreux, sur du périurbain.
Par exemple, sa grande ville, Évreux, c'est quand même beaucoup plus près que Neubourg.
Le canton du Neubourg. Oui, mais ils mettront moins de temps à aller au collège du Neubourg qu'à rentrer dans Évreux que les embouteillages. Ah. C'est ça.
Du coup, ça aura quelle incidence sur les lycées? Parce que justement, si j'habite Sacombine, que je vais au collège du Neubourg, le collège du Neubourg, il dépend quoi du lycée de
Montpellier. Ça n'a aucune incidence puisque la sectorisation des lycées est en fonction de l'adresse. Donc, si vous conservez la même adresse, vous conservez le même lycée d'affectation.
D'accord.
Est-ce que vous pensez que la resectorisation peut inciter les parents, question un peu délicate, à mettre leurs enfants dans le privé?
Moi, je ne suis pas à la place des parents, hein, mais aujourd'hui, la mixité, il ne faut pas qu'en parler, il faut la faire. Mmh. Et par rapport à ces choses-là, les gens ont toujours tendance, pour les autres, de dire qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Et dès qu'on se sent un petit peu concerné, eh ben, on ne veut pas adhérer au projet. Donc souvent, il y a beaucoup de gens qui proposent des choses, mais malheureusement, c'est toujours bon pour les autres et pas bon pour soi. Donc à un moment, cette mixité, voilà, comme je le disais, il ne faut pas en parler, il faut la faire.
Qu'est-ce qu'il y a
de
bien de faire
sur l'aide
du département dans ce
collège? C'est les agents titulaires de la fonction publique, hein, donc à un moment, ils seront redéployés dans les différents collèges. Il faut savoir qu'on a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui sont en absence. Hein, donc, je dirais, on n'a pas prévu aujourd'hui de réduire le budget de fonctionnement de ces collèges. Et c'est-à-dire que ça soit la dotation de fonctionnement que nous donnons chaque année, qui avoisine les 6,5 millions d'euros de coûts de fonctionnement que nous donnons au collège, plus le nombre d'agents que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas du tout prévu de réduire ces budgets. Donc la quantité aujourd'hui des effectifs sera redistribuée dans les collèges où il y a des besoins.
Oui, parce que j'imagine que ça va faire des doublons quand même.
Non, parce qu'on ne voit pas forcément une augmentation de la moyenne dans les établissements importante. Nos agents aujourd'hui, ils nettoient des surfaces. Donc globalement, les surfaces aujourd'hui vont très peu bouger. Après, il y a la restauration. Donc à partir de là, ça demande un peu plus de monde. Mais c'est vrai que sur la restauration, c'est quand même un métier difficile où on a un taux d'absentisme assez fort, où c'est un métier difficile. Donc le fait de renforcer par rapport aux personnes qu'on aura repris dans les autres collèges devrait faciliter le travail dans ce.
Et ils sont prioritaires dans le choix de leur poste. C'était important, les agents ne sont pas des pions, donc ils sont prioritaires dans le choix du poste.
Tout en sachant qu'ils ont un repositionnement sur le secteur d'Évreux. À moins que certains souhaitent aller beaucoup loin dans d'autres collèges, dans une cadre de mutation, ils nous regarderont bien sûr.
On regarde ça au cas par cas. Mais ça fait déjà 18 mois qu'on s'y prépare, puisque la décision de fermeture était prise en juin 2016.